chronique de littérature paysanne avec Mahmoud Alaya. Adieu Mahmoud.
Adieu, bonsoir.
Alors, à cette cope, dans cette chronique de littérature paysanne, parlerons d'une testimonie de l'évolution de l'agriculture française depuis 600 ans. Bon, il parle du seigneur Charles Briand. Alors, qui est Charles Briand?
Charles Briand est un paysan élevé dans le travail de la terre, de la vigne et du vin, ça te dit quelque chose. C'est un conseiller agricole, en fait, et après avoir travaillé comme paysan, il a suivi des formations pour adultes pour devenir technicien agricole, puis conseiller agricole. Alors, c'est vraiment un témoin privilégié de l'évolution du monde agricole en France depuis la fin de la Deuxième Guerre, quoi. Il est né d'abord dans une famille de petits paysans à Montfort, près de Saumur, en Anjou, dans le pays angevin. Et à l'âge de 14 ans, après l'obtention de son certificat d'études primaires, eh bien, il travaille sur la ferme de ses parents jusqu'à son départ au service militaire au Maroc en 56. Après, il a fait 2 ans de service militaire.
À qui il y a des sous, la vigne et l'oubi, c'est bon, hein, qu'en Anjou, il n'y a pas gagné.
Voilà.
Il
n'y
a pas gagné des
sous. Oui. Attends, tu vas voir, parce qu'il a voyagé. Alors, de retour, disons, du service militaire, il se marie et il s'installe comme fermier sur une petite exploitation fruitière dans le Tarn et Garonne. Et après, il est conseillé par un producteur, justement, pour suivre une formation pour adultes dans le Pays Basque, à Biscarreta, pour devenir technicien agricole. Et 2 ans après, il complète sa formation pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle au métier de conseiller agricole, qu'il exerça ce métier dans la zone témoin de Thauriac, c'est dans le Tarn, pendant 11 ans. Et puis après, dans l'Aube, pour le groupement de développement agricole de Champagne Crayeuse à Arcy-sur-Aube, près de la ville de Troyes. Jusqu'à sa retraite, il est resté là-bas. Donc il a une expérience de l'Anjou, du Tarn, de l'Aube et de la Champagne notamment. Et il a écrit, on va parler.
Justement. Alors à quel homme il est un écrivain. De qu'est-ce qu'il est?
Eh bien, il a écrit 11 ouvrages déjà publiés et il a encore d'autres en préparation. Il a publié son premier roman en 91, à 55 ans. Hein, son premier ouvrage, c'était « La batteuse ». Mais c'est surtout son second ouvrage qui a le titre « De mer inconnue ». Ça s'appelle comme ça, « De mer inconnue ». Il a été publié en 91 aux éditions Cherche Midi. Et ce livre rencontre un grand succès et remporte le prix Sully du ministère de l'Agriculture. Et suivent après plusieurs ouvrages, je cite quelques-uns, « Le seigneur de Farguevieille », Le ver est dans le fruit, ma culture biologique, on cause comme cite, c'est un dictionnaire pour s'expliquer sur les mots et les expressions du parler patoisin de l'Anjou. C'est un véritable pense-bête pour lui, pour un retour aux sources, pour le plaisir et pour rigoler un peu, etc. Et le tout dernier roman, là, le voici, c'est il vient de sortir en 2011.
Donc c'est la droite de la vostre radio, hein, l'enseigne qui.
Le bataillon de fer ou la guerre du Champagne en 1911, c'est-à-dire il y a un siècle, chez les éditions Execo. Ça vient de sortir. Alors Charles Briand, c'est aussi un militant de l'association des écrivains et artistes paysans. L'AEAP, dont je voudrais rappeler l'adresse du site internet pour les auditeurs qui voudraient avoir plus d'informations. Donc c'est www.écrivain-paysan.com. Hein. Sur ce site, je répète www.écrivain-paysan.com. Alors sur ce site, il y a les informations sur les écrivains, les ouvrages, quelques résumés, et on peut même commander les livres si on est intéressé. Il y a des ouvrages fantastiques. Alors, moi, j'ai rencontré récemment Charles Briand et on a parlé de ses écrits. On va l'écouter. Donc, maintenant, on en vient à ton œuvre, disons, en tant qu'écrivain paysan. Donc, ça commence, disons, en 91, où tu as sorti un premier ouvrage, un premier livre, intitulé « La batteuse » chez l'éditeur Cherche Midi. Alors, pourquoi tu as écrit ce roman sur la batteuse ?
En fait, j'ai toujours écrit, quand on était gamin avec des copains, on se faisait des petits poèmes. À l'armée, je me suis amusé à écrire pour faire rire les autres, et finalement on m'a mis dans un bureau avec mission d'écrire des bêtises. Et comme je ne savais pas trop quoi faire, un jour j'ai acheté des cahiers d'écolier pour noter tous les bêtises, les tournées, les sorties entre nous, les garçons, ou plus tard avec les filles, et j'en ai fait une demi-douzaine de cahiers, très, très garnis, où je racontais nos sorties, je racontais ce qu'on avait vécu autour de la batteuse, je racontais ce que j'avais vécu avec mon âne, et ainsi de suite.
La batteuse, c'est quand même une page d'histoire, c'est un événement connu dans les campagnes françaises.
Alors c'est un événement connu dans les campagnes françaises, mais pas seulement par les petits paysans. Les gamins des villes qui venaient en vacances chez les grands-parents ou chez les cousins ou les tontons, ils venaient au cours de l'été et ils participaient eux aussi à ces journées de battage. Et ces journées de battage sont très importantes parce que quand le paysan avait la machine à battre dans la cour, et quand elle repartait, il savait si sa récolte était bonne ou pas. Le blé qu'il avait semé au mois d'octobre ou novembre de l'hiver d'avant, au mois d'août suivant, 10 mois après, il savait s'il avait bien travaillé et s'il avait suffisamment de blé pour avoir du pain et éventuellement vendre du blé pour avoir un revenu.
Oui, mais la batteuse, c'est aussi c'est un engin mécanique impressionnant qui demandait une organisation, toute une organisation du travail, qui représentait un progrès technique important, mais également il y a tout un folklore autour de l'organisation de l'activité moisson avec la batteuse.
Alors si je l'ai mis en écrit détaillé, c'est parce que les enfants me disaient quelquefois, tu nous racontes des aventures que tu as vécues avec les autres dans ton village autour de cette satanée machine à battre, mais en fait le jour où tu auras cassé la pipe, on saura plus. Faudrait que tu nous écrives ça.
Oui, donc c'est un témoignage. Voilà. Bon, après ce témoignage important sur la batteuse et tout son environnement, tu as écrit un autre roman qui a eu alors beaucoup plus de succès, et c'est le roman de Deux mères inconnues. Le titre du roman, c'est Deux mères inconnues, qui est paru aussi en 91 chez Cherche Midi. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc dans ce roman de mères inconnues ? C'est également un témoignage sur quoi, comment ?
Alors, si j'ai écrit ce roman, c'est parce que quand j'avais fini La batteuse et que j'ai cherché un éditeur, je me suis heurté aux éditeurs, on va dire parisiens, qui ne comprenaient pas très bien ce que j'avais voulu écrire. Et j'ai mis 5 ans avant de trouver un éditeur qui me publie le livre La batteuse. Mais entre-temps, parce que j'avais fait un livre, pourquoi pas en faire un second ? Pourquoi pas écrire un roman comme d'autres écrivains du monde paysan, que je ne vais pas citer, mais que j'aime bien lire et j'ai tous leurs livres. J'ai entrepris d'écrire un roman à partir d'un fait réel d'une dame que j'ai connue et qui avait un enfant déclaré né de mère inconnue. Et à partir de là, j'ai réinventé son enfance à elle, j'ai réinventé la façon dont elle se retrouvait mère, j'ai réinventé sa région, je l'ai envoyée en Afrique du Nord parce que j'y ai fait mon service militaire, et ainsi de suite. Et pour répondre à une annonce dans une revue agricole, j'avais envoyé la batteuse pour participer à un concours. L'année d'après, j'ai envoyé ce roman, et c'est ce roman qui a décroché un des prix Olivier de Serres du ministère de l'Agriculture. À partir de là, en récompense, on m'a fait faire un contrat avec un éditeur parisien, Le Cherche-Midi, tout simplement, et Le Cherche-Midi a publié mon livre à quelques milliers d'exemplaires, comme ça se fait généralement. Seulement, l'année d'après, ils l'ont cédé au club France Loisirs, qui lui en a vendu plusieurs centaines de milliers.
Oui, donc c'est un succès, et il faut sans c'est un succès inespéré, mais c'est sans entrer dans l'histoire même du livre, parce qu'elle est captivante, mais un petit aperçu, c'est l'histoire de qui, de quoi ?
C'est l'histoire d'une gamine 13e de 17 enfants. Comme la plupart des enfants d'ouvriers agricoles ou de tout petits paysans, mais de familles nombreuses, que les parents avaient du mal à faire manger à leur faim, dès 8, 9, 10 ans, souvent le lendemain de la première communion, on les plaçait dans des fermes. Ils travaillaient, ils étaient presque réduits en esclavage, mais ils avaient à manger.
Voilà, donc c'est l'histoire captivante de l'état de misère dans lequel se trouvaient des familles et obligées de placer des enfants. Donc c'est une histoire d'une fille de cet âge-là qui a été placée. Et alors, on ne va pas rentrer dans le détail de l'histoire, mais c'est très intéressant ce roman de mère inconnue qu'il faut lire, quoi. Bon, alors après, tu as écrit bien d'autres ouvrages. On va en reparler, on va pas les parler de tous, mais on va venir au dernier ouvrage qui vient de sortir, donc début 2011, et lui, il porte sur la Champagne, la région que tu connais bien, et c'est la guerre du Champagne, mais 9 avril 1911, c'est-à-dire il y a un siècle, et avec sous-titre « Le bataillon de fer ».
Sous le beau ciel de l'été, blé avait mûri, promesse de pain blanc, lourds étaient ses épines, avait roussi encore dessous les maisonnettes, avec vrai droit de chaume que formaient les mogettes, qui brottaient en granger, attendaient aujourd'hui que l'éveil la chaudière en poussant ce long gré. C'est la batterie, c'est la fête du blé, c'est la contrée, le bon grain du mauvais. C'est la batterie, c'est la fête du blé, c'est la contrée, le bon grain de l'ivraie. Et ronfle la batteuse et tourne les poulies, pendant que les femmes s'affairent au fourneau, aux fournines. Un sourd bourdonnement va de l'aigu au grave, selon que la machine est vide ou qu'on la gave. Rassurez-vous à la tâche, point nous ne mourrons, on s'arrêtera bientôt pour une petite collation. C'est la batterie, c'est la fête du blé, c'est la contrée, le bon grain du mauvais. C'est la batterie, c'est la fête du blé, c'est la contrée, le bon grain de l'ivraie. Dans la maison ce jour-là, ça faisait de sacrée tablée. Fallait pour de grosses lichettes de la sauce à éponger. Fallait moins en promettre, fallait mieux en donner. À être trop chien, c'est rare qu'on y ait gagné. Et puis à la nuit temps, avant d'aller se coucher, quoi mieux dire, on buvait un bon coup de cidre mouché. C'est la batterie, c'est la fête du blé, c'est la contrée, le bon grain du mauvais. C'est la batterie, c'est la fête du blé, c'est la contrée, le bon grain de l'ivraie. Et vole la balle et ruisselle le grain, pour monter à l'échelle, faut un sacré coup de rein. C'est pas la trépigneuse, mais ça vous fait mouver, et cette sacrée poussière, ça va partout se fourrer. Et dit la marée, si tu veux ben je peux te gratter, sois ben gentil et demain, pomme t'auras une bannerée. C'est la batterie, c'est la fête du blé, c'est la près. On ne regrette pas tant la gale était belle d'y avoir trempé sa ceinture de flanelle dans ses mitaines dont les doigts on avait coupé en gerbant au soleil d'avoir tant transpiré. Si les épis sont beaux, c'est que j'ai moins finassé, c'est qu'avec ma faucille, je les ai bien embrassés.
C'est la batterie, c'est la fête du blé, c'est la contrée, le bon grain du mauvais. C'est la batterie, c'est la fête du blé, c'est la contrée, le bon grain de l'ivraie.
On travaille pour le vent et même on est vanné, mais le pain quotidien est là pour toute l'année. On la gagne et c'est sûr en mouillant sa liquette à la sueur de son front, en buvant de la piquette. S'il y a que la boulangère qui gagne quelques écus, c'est pas pour rien quand même qu'on se sera crevé le cul.
C'est la batterie, c'est la fête du blé, c'est la contrée, le bon grain du mauvais. C'est la batterie, c'est la fête du blé, c'est la contrée, le bon grain de l'ivraie. C'est la batterie, c'est la fête du blé, c'est la contrée, le bon grain du mauvais. C'est la batterie, c'est la fête du blé, c'est la contrée, le bon grain de l'ivraie.
Bon, maintenant, on vient à ce dernier roman que tu viens de sortir, qui vient de paraître en février 2011, sur le bataillon de fer, la guerre du Champagne, 9 avril 1911. Donc, ça fait exactement un siècle. Alors, cette guerre du Champagne, le mot guerre est peut-être un peu exagéré, mais qu'est-ce que tu as voulu, de quoi tu as voulu témoigner, ou qu'est-ce que tu as voulu faire ressortir dans ce roman ?
Dans ce roman, ce que j'ai voulu faire ressortir, c'est bien sûr parler de la Champagne et du Champagne et du Champagne de l'Aube en particulier, mais en fait, c'est un problème qui concernait toute la viticulture française. À partir des années 1860, 70, 80, 90, un insecte venu des Amériques, l'Ophyloxera, a investi le vignoble et faisait crever toutes les vignes. Dans le Midi, à partir des années 1860, remonté par le Bordelais, les Charentes, les Côtes-du-Rhône, la Bourgogne, l'Anjou, pour arriver en Champagne vers les années 1890. À ce moment-là, certains ont essayé de reconvertir le vignoble français, sachant que l'insecte venait des Amériques. On a fait venir des plants américains qui étaient résistants. Les chercheurs de Montpellier ont mis au point des variétés qui étaient résistantes au phylloxéra, mais qui pouvaient produire des vins. Des vins de consommation courante, mais des vins quand même. D'autres régions qui produisaient des vins de qualité, des Bordelais, des Bourguignons ou des Champenois, ont préféré, au lieu de planter des hybrides producteurs directs, ont préféré greffer les cépages français sur des porte-greffes américains. Mais en attendant que ça se réalise, beaucoup de régions n'avaient plus de production. Et à l'inverse, les gens du Midi, qui étaient reconvertis en hybrides producteurs directs, avaient une production pléthorique et n'arrivaient plus à vendre leur production et n'arrivaient plus à en vivre. D'où leur révolte des années 1904, 5, 6, 7, jusqu'au moment où le ministre de l'Intérieur a fait tirer sur la foule, et ça doit être à Narbonne, lors d'une manifestation, qu'on a relevé 6 morts parmi les manifestants. Mais dans d'autres régions, il y avait aussi des problèmes. Les maisons de champagne qui ne trouvaient plus de jus en champagne, chez les petits vignerons, eh ben, tout simplement faisaient venir des vins du Midi pour faire du champagne. Mais les vignerons de la Marne déjà et ceux de l'Aube ne pouvaient plus vendre leurs raisins ou leurs jus et eux aussi n'avaient plus de quoi vivre. Dans la Marne, ils se sont révoltés et dans l'Aube, ils se sont révoltés et ils ont tout cassé, mais dans l'Aube, ils se sont révoltés parce qu'en fait, ils avaient été exclus de la zone délimitée d'appellation Champagne. À partir de là, ils ont éprouvé la nécessité de manifester, mais sous la conduite d'un monsieur Gaston Schec, ils ont décidé de manifester dans le calme. Et entre autres, pour se réunir au chef-lieu de l'Aube, la ville de Troyes, ils ont décidé de marcher depuis leur village jusqu'à Troyes. 60, 70, 80 kilomètres, ils sont partis le vendredi soir, ils ont marché tout le samedi et le dimanche matin. D'autres sont venus par le train dans la matinée du dimanche, et l'après-midi du 9 avril 1911, 20 000 vignerons, hommes et femmes, dirigeants, les maires des communes, le maire de Troyes en particulier, tous ces maires avaient démissionné pour protester, hein, 427 démissions sur 446 maires, c'est quand même important, et tout le monde a défilé sans rien casser.
Oui, donc le roman relate ce fait important de la révolte des vignerons de l'Aube, mais c'est pas un reportage journalistique, c'est un roman. Il y a des personnages dans le roman, il y a un héros qui est, disons, c'est un enfant en fait, c'est l'histoire.
Voilà. En fait, je fais raconter l'histoire par un jeune, par un garçon qui rentre de la guerre en 1919, et dans le train qu'il ramène de l'occupation en Allemagne dans la Rhénanie, il traverse toute la zone de, en 1919, toute la zone qui a subi tous les combats de 14 à 18, de 1914 à 1918, toutes les destructions et tout ça, et il se rappelle ce qui s'est passé.
Et quel était son rôle là
Alors, il se rappelle que, étant né en 1899, il a pris connaissance des choses en 1905, 1910, comme tous les gamins de la campagne. Dès 10-11 ans, il était au travail, comme tous les petits paysans de l'époque, et on lui a même payé un vélo pour servir d'estafette et aller porter les messages dans les villages, dans les communes voisines, pour convoquer les gens, pour les inviter à participer à la manifestation. Et le jour de la manifestation, pour accueillir les groupes qui arrivaient par le train et les amener au boulevard qu'on appelle Gambetta aujourd'hui, et pour dire, voilà, votre place dans le défilé est là.
C'est une sorte de Gavroche de l'Aube, quoi.
Voilà, et c'est un garçon, comme tous les gamins de l'époque, quand on a le cerveau tout neuf, on enregistre tout, et je le lui fais raconter à lui.
Merci, merci pour cette présentation, cette brève présentation de ce dernier roman.
À quoi eran la chronique de littérature paysanne de Mahmoud Alaya, illustrate per une musique Los Cantaires de Perche, c'est la batterie Baki.